This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission Draft du podcast Touchdown Actu. Vous le savez, le processus Draft vous propose depuis quelques jours maintenant la présentation détaillée de certains joueurs sur des positions spécifiques, avec aujourd'hui la parole à la défense et notamment un poste en pleine émergence de par la polyvalence et les profils très intrigants qui la composent, puisqu'on va parler donc de la position de safety dans cette émission, avec du coup donc 8 joueurs séparés, on va dire, en 3 catégories: le haut du panier, les principaux outsiders et les joueurs un peu plus en embuscade, on va dire aux alentours du 2e, 3e tour. Donc voilà, vous le verrez, pas mal de joueurs intéressants et, je le disais, pas mal de profils assez divers à détailler au cours de cette émission. Pour le faire en ma compagnie, Nitinia Simong est avec moi. Salut Nizi.
Salut Greg, bonjour à tous.
Un plaisir de te retrouver, hein, dans un autre contexte que les mock drafts, hein, parce que généralement on a surtout l'habitude de se voir à l'occasion des mocks, où on a cité déjà certains safety, hein, notamment dans le premier tour. Alors il n'y a pas que ça, mais on va le dire tout de suite pour planter un peu le décor. Il n'y a peut-être pas autant de premiers tours sur cette position que sur d'autres. Par contre, à l'issue, on va dire, du deuxième jour de draft, on peut avoir beaucoup, beaucoup de safety qui ont déjà été sélectionnés.
Bah, il y a eu 3 safety au premier tour, hein, en 2022, hein. Il y a eu Kyle Hamilton, Daxton Hill et Lewis Cine. Mm-hmm. Cette QB pourrait aussi faire exception. Mais c'est vrai qu'il y en a un qui se détache du lot. Et après, les autres, effectivement, c'est plus, comme tu as dit, vers le 2e, 3e tour.
C'est ça. Voilà. Et encore une fois, il a fallu éventuellement balayer un petit peu pour faire, on va dire, quelques petits cuts. On aurait pu mettre d'autres joueurs. C'est vrai qu'il y a un Daniel Scott, par exemple, de California, qui marque beaucoup de points, notamment à l'occasion du Senior Bowl. Un Jamie Robinson également, qui est très souvent cité, le joueur de Florida State. On en reparlera à d'autres occasions, rassurez-vous. Voilà. Là, encore une fois, l'idée, c'est de faire une première projection un petit peu sur des noms, sur les noms les plus intrigants qu'on va retrouver, notamment, hein, dans l'optique du combine. Alors, les défenseurs ouvrent le bal cette année, donc peut-être que quand vous écouterez cette émission, vous aurez déjà vu les premiers jours des ateliers, puisque je crois que pour les safety, ça commence vendredi, enfin dans la nuit de vendredi à samedi, on va dire, hein, en début de soirée vendredi.
Vous voyez, aujourd'hui vendredi.
Oui, bah, c'est vrai. C'est vrai que voilà, nous sommes en légère avance même.
Donc, exactement.
Du coup, officiellement, on enregistre cette émission le vendredi, bien entendu. Voilà. Mais voilà, donc du coup, cette émission aura sans doute mal vieilli pour certains. Mais en tout cas, voilà, ce sera quand même l'occasion de vous intéresser de près un petit peu aux joueurs qu'on va évoquer dans cette émission. On démarre du coup sans plus tarder, Nitinia, donc avec ce premier chapeau. Et on va parler notamment, je vais présenter un petit peu le joueur, justement, t'en parler un petit peu, qui fait office de grandissime favori à une sélection au premier tour de la prochaine draft. Il s'agit de Brian Branch, le defensive back, on va dire, d'Alabama. On peut le résumer comme ça, tout simplement parce que c'est un joueur moderne. C'est un defensive back qui sait absolument tout faire, notamment d'un point de vue, j'allais dire plein centre, en tout cas, oui, sur la partie axiale, on va dire, du terrain. Excellent plaqueur, joueur également qui a été extrêmement solide en couverture. Je parlais de son plaquage, je crois que c'est 4% de plaquage manqué, un peu moins de 4% de plaquage manqué cette saison, ce qui est quand même assez énorme, hein, puisqu'en moyenne, ça tourne aux alentours de, allez, 10% peut-être, on va dire, si ça reste assez correct, on peut être aux alentours de 10-11%. Brian Branch, quand il se met sur un plaquage, il y a de très fortes chances pour que l'attaquant ne passe pas. Et puis je le disais, voilà, sur la couverture, un joueur qui a été extrêmement précieux, notamment sur le slot. Il a été bougé relativement partout au niveau du backfield défensif d'Alabama, utilisé sur de nombreuses positions. D'un point de vue utilisation, je ne vais pas comparer les deux profils parce que c'est des joueurs totalement différents. Il était un petit peu utilisé de la même manière qu'un Jalen Ramsey, par exemple, il y a quelques années du côté de Florida State. Donc c'est vraiment dire l'importance qu'il pouvait avoir dans ce backfield défensif d'Alabama, où on le sait, il y a quand même beaucoup de defensive back. J'ai pris l'exemple de Ramsey, j'aurais pu prendre l'exemple d'un Minka Fitzpatrick, hein, aussi, il y a quelques années du côté de cette même université d'Alabama. Mais la différence, peut-être, Nitinia, je vais t'essayer aussi développer un petit peu, te laisser donner ton point de vue sur Brian Branch. C'est aussi peut-être cette plus-value qu'il apporte sur le pass rush par rapport à d'autres joueurs de la position.
Il faut savoir qu'en cette année, en 2022, enfin, la saison 2022, il a fait 3 sacks. Donc c'est un joueur qui aime bien blitzer. On lui a demandé plusieurs fois, hein, d'être le, on va dire, l'espion sur le quarterback adverse, c'est-à-dire anticiper la couverture ou alors rusher le quarterback. Il est, comme tu l'as dit, il est très versatile. Donc c'est un joueur qui peut jouer. Il a plus joué nickelback effectivement dans le slot à Alabama. Je le vois également en NFL comme un free safety. Donc c'est vraiment un joueur qui va vraiment être très important contre la course notamment. Après, tu as cité effectivement la couverture. En couverture, il a progressé, mais en man-to-man, ça reste encore un peu perfectible. On l'a vu notamment contre Tennessee, mais il a notamment eu du mal contre Jalen Hyatt, mais bon, c'est juste un match parce que sinon il a progressé là-dessus. Peut-être aussi un manque de puissance également, parce que c'est vrai que physiquement, c'est pas l'athlète, on va dire, le mieux bâti, on va dire, de cette classe, mais c'est un joueur très intelligent avec beaucoup de détermination et beaucoup de potentiel.
Oui, c'est ça, c'est complet. C'est vrai que j'ai pas donné son profil pour le coup. Donc 1m83 pour 88 kilos. Alors c'est vrai qu'encore une fois, ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec ce profil relativement standard, avec des grosses guillemets, parce qu'encore une fois, c'est vrai qu'il n'est pas trop longiligne par rapport à d'autres joueurs qu'on va évoquer, ou en tout cas, c'est peut-être pas un joueur qui est trop frêle. C'est pas un joueur qui est trop petit, parce qu'un 83 pour la position, c'est quand même assez solide. C'est un profil athlétique hors norme, et c'est aussi pour ça qu'on parle d'un safety qui peut partir aux alentours du top 15, par exemple, de la draft. Hein, ça revient de plus en plus, cette tendance-là, parce que on parle vraiment, pour contextualiser, d'un joueur qui peut être un véritable gadget. Tu parlais de sa capacité à être un joueur utilisé en spy, donc être vraiment un joueur systématiquement en observation et surtout en réaction de ce que va faire le quarterback. Et c'est vrai que là, pour le coup, pour les attaques adverses, pour les coordinateurs adverses, ça peut vraiment être un poison, parce que en fonction de son positionnement sur le terrain, on ne va jamais savoir s'il va se retrouver en backpedal, s'il va se retrouver en position de blitz, s'il va se retrouver en anticipation de poursuite. Enfin, il peut faire absolument plein de choses. Donc voilà, en effet, il y a quelques petits éléments, on va dire, où ça peut apparaître assez perfectible. Mais globalement, voilà, les qualités physiques sont là, on l'a dit, avec le fait de pas avoir peur d'aller au plaquage, les capacités athlétiques avec les changements de direction. La vitesse, enfin voilà, après ça apportera confirmation, je pense, à l'occasion du combine, même s'il me semble qu'a priori il est prévu qu'il fasse tous les ateliers, ou en tout cas au moment où on enregistre cette émission. Donc voilà, c'est vraiment le joueur qui risque de marquer beaucoup beaucoup de points et d'être le principal safety à sortir à l'issue de cette draft 2023. On peut passer au deuxième safety, si tu le veux bien, Nitinia, avec du coup un autre joueur de la conférence SEC en provenance de Texas A&M.
Oui, Antonio Johnson, donc qui a 21 ans. Lui, c'est on va dire un athlète qui est bien bâti, lui par contre, par rapport à Brian Branch, 1m91, 92 kilos à peu près. Et il est assez physique, très costaud en tout cas. Et à Texas A&M, donc c'est l'un des leaders de la secondary. Alors ok, Texas A&M n'a pas fait une grande saison, hein, notamment on va dire que c'est plus la faute de l'attaque. En défense, ça allait quand même. Il formait quand même une bonne paire avec Demani Richardson à ce poste-là. Lui, sa qualité principale, hein, ce que je lui trouve en tout cas à Antonio Johnson, c'est l'instinct. Il est assez rapide. assez vif et vraiment très agressif. Il a quand même fait 3 fumbles forcés cette saison en 2022. Et c'est aussi un joueur qui, sur le plaquage, il est comme Brian Branch, il ne fait pas semblant. Il est capable donc de stopper le coureur, comme il est capable également de pouvoir stopper le receveur. Malgré une envergure, on va dire, un peu moyenne, parce que voilà, il n'a pas fait d'interception, il a juste fait une passe déviée, c'est pas énorme, voilà, pour lui. Donc c'est là en fait où on va se situer son principal problème, et c'est là où il va falloir qu'il soit très juste dans le process combine, c'est ne pas se tromper dans les assignements, ne pas se être trop agressif, ne pas être trop direct dans les jeux défensifs. Donc voilà, un QI football un peu moyen, mais c'est un bon athlète, bien bâti, il maîtrise tout type de couverture, notamment contre la course, mais c'est un joueur qui peut faire mieux, mais un joueur qui potentiellement peut être un premier tour. Voilà, je sais pas ce que t'en penses.
Bah, je trouve que, en effet, je vais pas répéter ce que tu disais. En plus, t'as donné à peu près son profil, 1m91 pour 88 kilos. Et c'est vrai que pour le coup, alors, j'ai pas donné les stats tout à l'heure de Branch. Hein, je crois que c'était 7 passes défendues, 2 interceptions. Il y avait 90 plaquages au total.
C'est ça.
C'est vrai que Johnson, ce qui pose peut-être un peu problème et ce qui va être peut-être un peu polarisant, notamment en fonction des différentes franchises, c'est le fait, en effet, qu'il y ait ce petit manque de production. On va dire que, on est un peu dans les dimensions physiques sont pas les mêmes, mais il y a quelques similitudes avec Daxton Hill, par exemple, l'année dernière à Michigan. C'est-à-dire que c'est un defensive back qui sait faire énormément de choses, mais il y a cette chose où on se dit, est-ce qu'il y a vraiment un domaine où il est excellent? Parce que je te rejoins, en effet, sur le run support, il peut apporter, mais il est peut-être pas aussi parfait que ça au plaquage. Il a tendance justement à se laisser peut-être un peu trop guidé par ses instincts et parfois ça les joue un petit peu quelques tours. Après, c'est vrai que cette année, du côté d'AM, il n'a pas forcément été aidé parce que même défensivement, il y a beaucoup de jeunes joueurs et il y a peut-être aussi beaucoup de. Voilà, ça arrivait peut-être un peu plus que prévu, on dira, dans sa direction. Donc voilà, il a répondu présent, mais il ne pouvait pas non plus faire des miracles là-dessus. Mais c'est vrai que c'est pas le meilleur plaqueur du lot alors qu'on l'attend au premier tour. En termes de production, tu l'as dit, enfin en termes de capacité à intercepter les quarterbacks adverses, c'est pas folichon non plus. Donc c'est un joueur qui là aussi peut apporter beaucoup de possibilités dans l'aspect polyvalence et capacité à brouiller les cartes pour les coordinateurs adverses. C'est un joueur qui, je pense, va être beaucoup dépendant. C'est vraiment mon ressenti à moi, va être beaucoup dépendant du coaching staff et du contexte dans lequel il va tomber. Parce que c'est
exactement.
Un joueur qui a une belle marge de progression malgré tout. Qui a été baladé un petit peu partout, tu l'as dit, un peu free safety, un peu nickelback. Il me semble que de mémoire, il a même commencé sur l'extérieur du côté de College Station. Enfin, il a fait vraiment plein de positions. Et je pense que le rôle du coaching staff aura un rôle extrêmement important pour lui. Mais voilà, c'est sûr que pour un joueur qui fait 1m91, déjà avoir la mobilité qu'il possède et surtout l'activité et la réactivité qu'il est capable d'avoir, c'est un luxe aujourd'hui en NFL, encore plus quand tu as envie d'avoir un safety vraiment moderne. Donc voilà, là, il y a toujours cette notion de savoir est-ce qu'on utilise plus sur du deep safety, donc ce qui est l'équivalent du free safety, du box qui est l'équivalent du strong, et sur du slot qui est l'équivalent du nickelback. On va dire qu'il se situe, je pense, peut-être aujourd'hui plus sur du nickel slash box.
Exactement, moi je vois strong.
On voit que sur la couverture, il y a peut-être un petit peu plus de mal en termes de production.
Ouais. Ouais, c'est ça. En NFL, je le vois vraiment strong safety. En deep safety, en free safety, donc pour moi, il aura un peu de mal. Mais comme tu as dit, effectivement, ça dépendra du staff défensif de l'équipe qui va le drafter.
Tout à fait. Bon, en tout cas, voilà, c'est pour le coup, voilà, c'est surtout là-dessus. Je pense que Brian Branch, ça va faire globalement l'unanimité le fait que voilà, ça reste un spécimen, on va dire, hors norme dans cette classe. Voilà, Antonio Johnson, je pense que voilà, il y a un profil athlétique indéniable pour un premier tour. Mais c'est vraiment le type de joueur qui peut glisser au deuxième parce qu'on se dit, bon, finalement, on ne sait pas trop si le jeu peut valoir la chandelle. Surtout qu'on n'a pas vu que des bons passages, en l'occurrence, de Daxton Hill. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises du côté de Cincinnati. Je ne sais pas s'il a joué.
Non, il n'a pas joué tous les matchs et il a eu une blessure, hein, je pense, en
voilà,
plus.
C'est aussi pour ça que je ne voulais pas dire de bêtises, mais voilà. Ce sera quand même à prendre en considération. On passe au deuxième chapeau à présent de cette classe de safety et on va commencer là aussi par un profil extrêmement intriguant. Qui est celui de Christopher Smith, safety de Georgia. Alors, on parlait d'homme un petit peu à tout faire. Alors, c'est un joueur qui a principalement été utilisé en tant que free safety du côté des Bulldogs, qui a joué un grand rôle. Et d'ailleurs, dès qu'il est passé titulaire, Je résume grossièrement, hein, mais dès qu'il est passé titulaire en tant que free safety, Jordi a systématiquement fini champion universitaire. Donc bon, c'est pas non plus. Et c'est surtout que ça a été un leader indéniable de la défense. Et pour le coup, on parlait d'Antonio Johnson tout à l'heure. C'est comme certains l'appellent outre-Atlantique, un ball hawk, puisqu'en l'occurrence, sa production en tant que telle est pas folle, mais c'est un joueur qui est parfaitement capable de voler les ballons et d'être un joueur capable de rendre le momentum à son équipe, Nitinia.
Ah, clairement, la définition même du playmaker, c'est Christopher Smith. Voilà, 3 interceptions donc cette saison, hein, avec Georgia, et une intelligence de jeu qui est peut-être la meilleure de la QV, peut-être à égalité avec Brian Branch, mais peut-être l'un des meilleurs en tout cas pour tout ce qui est lecture des jeux offensifs.
Ensuite,
c'est vrai que comme tu l'as dit, 2 fois champion avec Georgia et qui peut aussi contribuer en équipe spéciale, hein, dès sa première année, peut-être pas titulaire dès la première année, hein, parce que physiquement c'est pareil, hein, c'est pas l'athlète ultime, mais c'est quand même un joueur qui peut convenir à un système défensif en 4-2-5 ou alors sur une défense en A4 derrière, où il jouera probablement free safety, parce que en nickelback c'est son rôle idéal, mais free safety il peut jouer, parce que c'est un joueur qui sait aussi plaquer, même si dans la qualité de plaquage il peut faire mieux, mais c'est un joueur expérimenté. C'est là, en fait, où est le problème. Son plafond est pas très haut, mais il a déjà un plancher, effectivement, très très expérimenté.
Oui, c'est ça. Et je rejoins globalement tout ce que tu as dit. C'est vrai qu'en effet, il y a peut-être une science du plaquage un peu à perfectionner. Et c'est vrai que là, en l'occurrence, sur les équipes spéciales, ça peut l'aider justement à prendre un petit peu de galon, on va dire, à ce niveau-là. Mais c'est sûr que oui, on l'a vu utilisé dans beaucoup de domaines, notamment lors du Senior Bowl. Il me semble qu'il a beaucoup beaucoup été utilisé sur la position de nickelback.
Oui, c'est
donc,
ça.
Donc voilà, justement pour voir un petit peu ce que ça pourrait être susceptible de donner. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont intéressées pour le faire. On sait qu'il y avait beaucoup de, c'était très dispatché au niveau des coaching staff du Senior Bowl entre les différentes franchises. Donc je pense que voilà, c'était pas sans arrière-pensée, je pense, à l'occasion de cet événement-là. Mais je te rejoins, voilà. De toute façon, j'ai de très gros doutes. Voilà, on parle d'un joueur d'1m80-88 kg. Vu le profil du bonhomme, j'ai pas dans l'idée qu'il sera strong safety au niveau supérieur. Il a clairement pas le gabarit, par exemple, de son ancien coéquipier Lewis Sin pour justement avoir cette intensité-là à haut régime, on va dire, en tout cas sur toute la durée d'un match. Donc voilà, on parle vraiment d'un joueur capable d'apporter de son soutien sur la couverture et d'être un vrai leader, et surtout un joueur précieux sur la lecture de jeu, comme tu le disais. Donc voilà, ce sera à surveiller. C'est la principale problématique, en effet, ça va être son positionnement et savoir concrètement ce qu'on peut en faire. C'est pas un athlète hors norme, tu l'as déjà dit, hein. Voilà, c'est pas le joueur le mieux bâti, on va dire, en effet, si on prend la projection des scouts, par exemple. Donc voilà, c'est des éléments en effet qui peuvent jouer contre lui, et lui comme d'autres en effet vont avoir une carte très importante à jouer à l'occasion du combine pour assurer sur certains secteurs clés. Je te laisse enchaîner sur le deuxième joueur de ce deuxième tour. On va revenir du côté d'Alabama pour s'intéresser alors à un joueur qui était pressenti pendant longtemps au premier tour, et finalement aujourd'hui on se pose quelques questions le concernant, Jordan Battle d'Alabama.
Jordan Battle, 4 saisons qu'il est titulaire, hein, quand même, hein. C'est un joueur expérimenté, hein. Mais on va parler de ses qualités tout d'abord. C'est quand même un joueur qui a une vraie intelligence de jeu et un très bon leadership. Il est capitaine d'Alabama depuis 2-3 saisons, je crois 3, il me semble. Mais c'est toujours un mec qui est toujours tout près de la balle, enfin à côté du football, à la fin des actions, hein. C'est toujours le joueur qui sait où va finir l'action et qui est capable de finir, de plaquer comme ça le coureur, voire le receveur ne passe pas. Il a quand même une bonne taille, il est assez agressif, mais comme Antonio Johnson, on va dire, ce n'est pas un joueur qui sera un vrai playmaker. Ce n'est pas un joueur qui fait beaucoup d'interceptions, seulement une seule cette année en 2022. Alors qu'en 2021, pourtant, il avait bien produit, hein, 3, il me semble, hein, ou seulement 2, je m'en souviens plus, mais en tout cas, il avait bien produit. Par rapport à 2021, on va dire qu'il a été un peu surpassé par la production de Brian Branch, hein, c'est aussi ça. On l'a beaucoup vu En tant que strong safety dans la boîte, mais aussi bien profond en tant que deep safety. Donc c'est un joueur qui est assez hybride également, mais il jouera vraiment que safety. Il peut pas jouer nickelback ni cornerback, ça c'est sûr. Pareil comme Christopher Smith, son gros défaut c'est le plaquage. Le plaquage, il prend parfois de très mauvais angles de plaquage. Il a eu beaucoup de mal, notamment contre je vais faire la même rencontre hein, que Brian Branch à Alabama, la rencontre contre Tennessee, ou que ce soit en homme à homme ou même la couverture en deux zones. Pourtant, la couverture en deux zones, c'est sa spécialité, mais en homme à homme, c'est moyen, voire poussif. Et par exemple contre Ole Miss, il a été sauvé par Brian Branch, mais voilà, Jordan Battle est un bon joueur, c'est un bon athlète. Mais il fait des erreurs, bah comme tout joueur qui va rentrer dans le processus draft. Mais tout de même, il a de grandes chances d'être titulaire dès la semaine 1 s'il se montre bien au camp d'entraînement quand il sera drafté en avril prochain.
Tout à fait. Jordan Battle, ça fait partie de ces joueurs où tu te poses la question. Alors, il avait la possibilité, puisque en effet, sa quatrième année vraiment pleinement comme joueur du côté d'Alabama, il avait la possibilité de s'inscrire l'année dernière pour la draft 2022. Il n'a pas choisi de le faire. Et c'est ce genre de joueur où tu te poses la question de te dire, est-ce que il était vraiment à plein régime en 2022? Est-ce que ça fait partie de ces joueurs? On parle beaucoup de Will Anderson, par exemple, à Alabama. À un degré moins de Jordan Battle, c'est vrai que c'est très perturbant de voir. Bon, on va parler d'un autre joueur également tout à l'heure qui a atteint peut-être son pic un peu tôt et qui là dont on se pose beaucoup de questions aujourd'hui. Mais c'est vrai que tu le disais, voilà, c'est vrai qu'il y a cet élément-là. On se dit que même l'aspect vraiment purement en production, en effet, il y a tu l'as dit en 2021, alors c'est trois interceptions pour deux pick six en plus. Et c'est vrai que la saison dernière, bon, on est resté un petit peu sur notre faim parce que c'est vrai qu'il était Oui, il était souvent à la conclusion des actions, notamment pour plaquer. Il fait 71 plaquages cette saison. Mais c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas encore il n'y a pas cet instinct de tueur, peut-être qu'on attendait de retrouver en 2022, en vue de confirmer justement ce qu'on avait vu les mois précédents. Donc c'est là-dessus, en effet, où ça va être intriguant à suivre. Et je te rejoins là-dessus également. C'est vrai qu'il y a peut-être un plaquage. Alors, c'est vrai que c'est un peu le grand problème des safeties aujourd'hui et de beaucoup de positions, c'est qu'on privilégie peut-être plus la vitesse aujourd'hui à vraiment la science pure du plaquage. Donc là encore, je pense que c'est pas la chose la plus difficile à apprendre en NFL, à mon sens, le plaquage, encore une fois, surtout si on tombe sur un coaching staff assez discipliné. Donc je me fais pas de soucis de là-dessus. Mais pour un joueur que je vois peut-être plus dans un rôle de strong que de free, on va dire traditionnel, ça va être quelque chose quand même à pas prendre à la légère. Donc voilà, là-dessus, je te rejoins. Je ne sais pas où tu le vois à peu près, à quel tour tu l'imagines. Moi, j'avoue que j'aurais pas de mal à le voir peut-être en fin de deuxième tour, mais c'est vrai que sa cote a tendance à être un peu à fluctuer énormément.
Ça dépendra du process combine, s'il fait tous les activités et qu'il performe dans ses activités. La deuxième tour, c'est quasiment bloqué. Mais là, moi, hein, de la saison 2022 que j'ai vue, c'est pas plus haut qu'un troisième tour, personnellement. Mais je suis peut-être sévère, hein, parce que c'est quand même un bon athlète, comme je t'ai dit. Et puis pour moi, il a pas cette polyvalence qu'avait son coéquipier Brian Branch. Donc pour moi, il sera strong safety en NFL. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hein.
Très bien. Non, mais globalement, voilà. Ça me paraît pas plus sévère que ça. Encore une fois, il y a beaucoup de safety, je le disais, à l'issue du deuxième jour qui peuvent sortir. Et je serais pas surpris qu'il y ait une espèce de petite razzia sur des safety, par exemple, en début de troisième, en début milieu de troisième, dès que les premiers commencent à ressortir, parce que vraiment, il y a quand même quelques bonnes affaires à faire sur cette position-là. On termine avec le deuxième joueur du tier 2, comme on peut l'appeler. Alors, c'est pas celui qui a une hype la plus flagrante. J'avoue, c'est un peu un cri du cœur. Et c'est pour ça que je vais le présenter, mais J.I.R. Brown. Safety de Penn State. Alors là encore, on parle de joueurs dont le pic est peut-être pas, a peut-être, a sans doute pas été aperçu en 2022. À mon sens, sa meilleure saison est en 2021. La question sera de savoir si c'est principalement lié au fait qu'il ait joué aux côtés de Jaquan Brisker, notamment du côté de Penn State, qui avait peut-être tendance à gommer certaines de ses lacunes. Ça, c'est une possibilité. Maintenant, là où je trouve que là aussi, ça fait partie de ces joueurs. Alors, vous allez me dire, c'est la réponse un peu facile. Là aussi, je trouve que le coaching staff a un rôle très important à jouer pour J.I.R. Brown. Parce qu'on voit un potentiel indéniable. C'est un joueur qui est sorti donc de junior college, donc d'université un peu moins coté, on va dire, lors de ses premières années. Je crois que c'était le même junior college, pardon, que Jaquan Brisker, d'ailleurs, de mémoire. Et on a vu quand même une progression assez certaine, et je trouve que c'est un joueur qui se laisse un peu trop aller à ses instincts, qui là encore fait partie de ces joueurs qui n'arrivent pas à assurer une certaine science du plaquage, qui se laisse vraiment un peu trop aller, et sur le run stop, surtout pour un joueur qui est sans doute pressenti pour jouer strong safety, là encore, ça peut être quelque chose d'assez problématique. Il y a un potentiel athlétique qui, par rapport à d'autres, pose énormément de questions. Et là aussi, d'un point de vue vitesse, mobilité, on parle d'un joueur qui, à mon sens, je trouve, peut couvrir sur les tight ends. J'en vois pas tant que ça avoir ce potentiel-là. Enfin, en tout cas, du souvenir que j'en ai en 2021, c'était un des meilleurs dans ce registre-là. Après, voilà, il faut qu'il rassure sur beaucoup de données, notamment, je le disais, athlétique et peut-être QI foot. Mais c'est un profil, je trouve, très atypique dans cette classe. Je sais pas ce que t'en penses, Niti. C'est un profil très, très atypique. Et on peut aller, à mon sens, peut-être, du début troisième, à fin quatrième, début cinquième tour, facilement.
Non, tu as presque tout dit, hein. Une vraie production lors des deux dernières saisons. Peut-être la saison dernière, effectivement, Jaquan Brisker a peut-être masqué ses lacunes, comme tu l'as dit, mais ça reste pour moi.
Mais c'est vrai qu'il fait 4 interceptions en 2022 pour le coup.
Oui, c'est ça. Et bon, 4 interceptions, et puis il a vraiment brillé en début de saison, hein, l'année dernière, en 2022. Après, il a un peu stagné, hein, j'ai l'impression. Tu parles de son potentiel qui est indéniable. Il aura un potentiel, effectivement, mais il a déjà 23 ans, hein, Jaya Brown, donc c'est un redshirt senior. Et pour moi, son plafond, alors je sais pas pour toi, mais... voilà, il a vraiment performé cette saison, mais c'est là peut-être où les inquiétudes vont être de mise chez les scouts NFL. C'est est-ce qu'il peut aller plus haut que ce qu'il a montré là cette saison et lors la saison 2021. Donc tu as parlé de sa qualité de plaquage qui est parfois un peu coussi coussa, on va dire. Les instincts, effectivement, c'est très bien, mais aussi. Il est basé parfois que sur une lecture et effectivement, lorsque le quarterback va le manier, il ne saura pas, on va dire, changer de direction. Donc voilà, il est dur, c'est vrai, il est très athlétique, très costaud, mais on va dire effectivement en termes de QI football, c'est pas le meilleur safety effectivement de la QV. Mais ça reste un joueur qui aura sa place en NFL. Il faudra qu'il travaille en tout cas.
Tout à fait. Si on devait prendre une analogie, on pourrait dire que le plafond est haut, mais on est sur une toiture mansardée.
Ouais, c'est un peu c'est un peu ça, mais attention, hein, la toiture peut vite tomber après. Attention.
Voilà. À surveiller. On passe du coup au tiers 3 et je vais te laisser la main du coup pour nous présenter. Alors attends, du coup, je me suis emmêlé les pinceaux. C'est moi qui étais sur Sydney Brown ou c'était toi?
C'est toi.
C'était moi. Donc du coup, JL Skinner, c'est toi. Donc je vais te laisser la main sur JL Skinner. Okay. Je parlais de profil très atypique. Je pense qu'on est gâté avec ce defensive back de Boise State.
Ah bah alors là, on a affaire à un mec qui, je me demande s'il est vraiment safety, hein, parce que.
Bonne idée. Alors ça, c'est intéressant.
C'est vrai que des mensurations telles 1m95, quasiment 100 kilos, tu te dis. Bah non, ça c'est pas un safety, c'est presque un, moi j'allais dire un lineman, ouais. Mais un linebacker, voilà, plutôt. Ouais, mais sinon, oui, c'est un safety, c'est plus un strong safety. Et tu sais que son idole, c'est Cam Chancellor, hein, l'ancien de Seattle, qui a quasiment les mêmes mensurations que lui, hein. Il disait de lui qu'il a regardé tout ses vidéos. Enfin bref, je m'égare, mais JL Skinner, oui, un joueur hyper physique, hein, effectivement. Peut-être le problème, c'est qu'il joue à Boise State. Il aurait pu viser peut-être un peu plus haut, hein, mais Boise State est quand même une bonne équipe, hein, qui a quand même fait un bowl game, hein, contre
oui,
Fresno State.
On peut surtout dire ça par rapport aux confrontations qu'il a eues peut-être au cours de ces dernières années. Ouais.
Voilà, exactement. Mais c'est vrai que en 3 saisons, il a fait le tour à Boise State et donc logiquement, il se présente à la draft. Il a été dans les couvertures de zone. Il maîtrise aussi la couverture homme-homme, même si homme-homme, un peu comme toute cette QV, j'ai l'impression, hein, même Brian Branch, hein, c'est un peu disproportionné, c'est un peu moyen, j'ai envie de dire. Mais sinon, effectivement, il est agressif, parfois trop, mais il n'hésite pas à, on va dire, comment dire, à marquer son adversaire lorsqu'il plaque. Sur les jeux de course, voilà, il est assez intelligent pour tout ce qui est stopper le running back. Mais effectivement, après, alors on a appris hein, aujourd'hui que, enfin aujourd'hui, enfin ces derniers jours que J.S. Skinner n'allait pas participer au combine parce que apparemment il s'est fait une blessure au pectoraux, donc c'est dommage. Mais sinon, sur ce qu'il a montré en 2022 avec Boise State, ça reste un joueur qui était un leader, donc et qui va impressionner peut-être ses coéquipiers dès sa première année. Peut-être pas à la manière d'un DK Metcalf, mais quand même. Mais en tout cas, ça va être un bon joueur, en tout cas pour la NFL, ça c'est certain.
Ouais, alors t'as tout dit là-dessus. Là aussi, ça fait. De toute façon, ce sera en effet un joueur très polarisant de par le profil en effet qu'il représente, parce que je te rejoins totalement sur le côté en effet aux des dimensions physiques qui sont pas sans rappeler Cam Chancellor. Dans la NFL moderne, je sais pas si avec ce type de profil-là, tu peux jouer comme jouait Cam Chancellor à l'époque. Si je devais prendre peut-être une comparaison physique. Il me rappelle beaucoup, et d'ailleurs, il avait fini au troisième tour, un petit peu la surprise générale. Il me rappelle un petit peu Divine Diablo,
Ah oui.
l'ancien Virginia Tech qui avait fini aux Raiders et qui est titulaire, il me semble, aujourd'hui en position de
Il est titulaire.
linebacker. Donc, on peut être à peu près sur ce type de comparaison-là, on va dire, en sortie d'université. Après, voilà, c'est toujours un petit peu la même chose. Je rejoins un petit peu sur Antonio Johnson tout à l'heure, mais c'est un joueur qui sait faire plein de choses. Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il sait bien faire. Parce que j'avoue que même sa technique de plaquage me bluffe pas énormément. Enfin, je trouve qu'en tout cas, il a cette tendance à vouloir un peu. Enfin, je pense que c'est la tendance de beaucoup de joueurs, encore une fois, par rapport à ce qu'on disait. Mais ouais, je le trouve pas très. C'est pas très assuré, je trouve, sur certains plaquages. Après, voilà, c'est déjà mieux que d'autres, très clairement. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui peut s'apprendre, en tout cas plus que d'autres paramètres. Sa fluidité de déplacement, ses changements de direction sont pas dingues non plus. Et pour un linebacker slash safety qui peut du coup être susceptible de défendre beaucoup sur les tight ends, ça peut être problématique, surtout sur les tight ends modernes. Donc ça aussi, ça va être à prendre en considération. Après, je serais très étonné. Il faut voir comment évolue sa blessure, mais bon, on parle pas d'une blessure au genou ou ce genre de choses. Ça va être surtout problématique parce que bah ça va nous priver, on va dire, d'une certaine observation pendant la période du combine et tout ce qui va s'en suivre. On ne sait pas trop pour le pro day ce qu'il en est de Boise State pour les semaines à venir. Mais ça, je ne suis pas sûr que ça le fera dégringoler dans les boards. Et à mon avis, on parle quand même d'un solide troisième tour malgré tout. Je pense que pour le côté vraiment profil très atypique de cette classe, ça peut sortir en fin de deuxième journée.
Oui, en plus, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'il a aussi un profil de playmaker intéressant, hein, quand même, hein. 4 interceptions, 4 passes déviées. Alors, contre Fresno State au bowl game, il n'a malheureusement pas fait le meilleur match de sa vie. Mais si on regarde après les autres matchs qu'a fait J.S. Skinner avec Boise State, c'est quand même très productif. Tu as parlé des plaquages parfois manqués, mais j'avoue que lorsqu'il parvient à suivre un receveur et un tie-in, vu l'opposition, ça ne posait pas de problème. Mais c'est vrai qu'en NFL, comme tu le disais, là il aura fort à faire, donc encore à travailler, mais je pense que ça va être un joueur très solide en NFL.
Oui, très clairement, je pense également. On enchaîne avec ce troisième chapeau et on va parler à présent d'un Canadien, puisqu'on va parler, du coup, c'est moi la star,
C'est
c'est
ça.
moi qui ai les projecteurs.
C'est ça.
Sidney Brown, safety d'Illinois, joueur dont la cote ne cesse de grimper, hein, tout comme celle de son frère jumeau Chase au niveau du poste de running back. Six interceptions pour Sidney Brown. Alors, autant. Il y en a pour qui on peut se poser des questions. Est-ce qu'il va jouer nickel? Est-ce qu'il va jouer strong safety? Sidney Brown, ce sera un free safety en NFL, je pense qu'on peut le dire. Ne serait-ce que parce qu'en termes de plaquage, c'est chaud. Il jouait dans la Big Ten. Alors, pour contextualiser, pour ceux qui ne connaissent pas, la Big Ten, c'est quand même la conférence où ça joue beaucoup, beaucoup au niveau du jeu au sol. Ça s'est vu et ça a exposé notamment certaines lacunes de Sidney Brown. Pour le coup, voilà, j'étais peut-être un peu sévère avec J.L. Skinner en l'occurrence sur tout ce qui peut être technique de plaquage qui est pas toujours assuré. C'est vrai que Sidney Brown, là, on est sur du pourcentage de plaquage manqué qui doit tourner aux alentours des 18 voire 20%. ce qui est quand même assez énorme quand on est titulaire, et encore une fois, dans une conférence, on est quand même sujet à être beaucoup sollicité sur le run support. Maintenant, voilà, il y a le côté production et capacité justement à provoquer des turnovers face à cette mauvaise manie, on dira, la mauvaise prise d'angle d'un côté et la technique de plaquage qui n'est pas assurée de l'autre.
Alors en fait, Sidney Brown, clairement, il faisait pas partie de mes joueurs que j'avais en visuel avant la saison NCAA. Force est de constater que sa production m'a tilté. Et donc après, j'ai essayé de regarder quelques vidéos des matchs précédents qu'il avait fait à Illinois. Et j'ai trouvé effectivement très très bon sur la couverture en tout cas. Il est assez explosif. Voilà, free safety.
C'est un ancien, ouais. C'est un ancien champion entre guillemets. En tout cas, il était très très réputé en athlétisme. Ça fait pas tout. Il y en
oui,
a beaucoup
oui,
en.
C'est vrai, ça.
Il y en a beaucoup en aux États-Unis. Hein, enfin, on a des athlètes de football américain qui sortent des track fields, comme on les appelle. Mais ouais, Sidney Brown est assez réputé dans ce domaine-là. Donc, d'un point de vue vitesse et qualité athlétique, je pense qu'on a affaire en l'occurrence à un client. Ouais.
Voilà, donc dès le snap parti, c'est vrai que c'est un joueur qui va aller au charbon, hein, qui va plaquer, voire aller sur le ballon en NC. En tout cas, c'est ce qu'il a fait. Après, comme tu l'as dit, effectivement, la qualité de plaquage, j'avoue, c'est aussi ce qui m'a sauté aux yeux. C'est le premier plaquage qu'il a loupé, j'ai fait, mais c'est pas possible. Comment il a fait pour louper ça? C'est incroyable. Après, j'ai vu 2, 3 matchs, 4 matchs, qui faisaient la même chose. Vous verrez, de toute façon, hein, vous tapez son nom sur Google, ce sera indéniable. Par contre, ce qu'il a vraiment produit cette année, en 2022, et c'est là ma question également, c'est est-ce que en 2022, il a surperformé? C'est ça ma question, en fait, sur lui. Beaucoup le voient effectivement en train de monter. J'attends encore de voir. Voilà.
Oui, oui, non, c'est pour ça. Après, c'est encore une fois, il y a des points très positifs d'un côté, des points assez négatifs de l'autre. C'est ce qui fait qu'encore une fois, je pense qu'il oscillera entre peut-être le troisième et le quatrième tour. Voilà. Mais j'ai
oui,
du mal
ça,
à le
c'est
voir
sûr.
Plus haut et j'ai du mal à le voir dégringoler, ne serait-ce que de par les qualités athlétiques qu'on a déjà mentionnées. Donc voilà, Sidney Brown, en tout cas, sera un joueur très clairement à surveiller au cours de ce processus draft. On termine avec le troisième chapeau. Alors, il y en a certains qui ne seront pas d'accord. On est obligé, Nitti, de parler de ce joueur-là. Brandon
obligé.
Joseph,
safety oui.
De Notre-Dame. Alors, je parlais des joueurs qui ont peut-être atteint leur pic de forme un petit peu haut. Ça commence à remonter un peu, Brandon Joseph. On parle de la saison 2020 à Northwestern, où il jouait notamment avec un certain Greg Newsome du côté des Wildcats.
Oui. Northwestern avait une secondary incroyable en 2020, voilà, c'est ça. 6 interceptions en 2020, en 2021, 3, et cette année, en 2022, avec Notre-Dame, seulement une. C'était contre Syracuse, tout début du match, hein, vous pouvez
ouais,
pas le louper.
Voilà,
un pick 6 en plus. Et en fait, il a été donc transféré pour aller remplacer Kyle Hamilton, hein, qui était parti à Baltimore, donc hein, au premier tour de la draft de l'an dernier. Pourtant, il avait un coach défensif hein, avec lui, hein, Marcus Freeman, hein, qui était le nouveau coach de Notre-Dame, et on pensait que en allant à Notre-Dame, que sa cote allait monter, voire aller titiller le premier tour, hein, parce que clairement, quand il était à Northwestern, on disait c'était une recrue 3 étoiles, mais le mec il produit, il fait des interceptions, il est très bon en couverture de zone. Mais finalement à Notre-Dame, on a vu aussi toutes ces lacunes. C'est un peu ça le problème. Il a eu beaucoup de mal dans la couverture en man-to-man. Beaucoup de mal sur les plaquages également, alors qu'à Northwestern, il a quand même fait produire en plaquage. Donc là, c'est vrai, on ne sait plus trop sur quel pied danser. On ne sait pas s'il a déjà atteint son potentiel. On ne sait pas trop si en fait il sera un free, un deep safety, un strong safety également. Il y a ça aussi hein, comme dans le positionnement.
Ouais, je pensais peut-être plus à un free en l'occurrence de la manière dont on va l'utiliser, mais je te rejoins, les questions peuvent se poser. Ouais.
Voilà, donc s'il arrive à retrouver le niveau qui était le sien, ne serait-ce qu'en 2020, bah là l'équipe qui l'aura drafté aura tiré le gros lot, comme on dit. Mais c'est vrai que là, en termes de questionable profil, là, on a un vrai cas.
J'aime pas comparer les différents joueurs parce que comparaison n'est pas raison et voilà, la vérité d'un joueur dans un programme n'est pas la même pour tout le monde. Il y a des similitudes dans ses qualités athlétiques et dans sa potentielle utilisation en NFL. Il peut y avoir un potentiel à la Antoine Winfield Jr. Voilà, à être vraiment ce free safety capable d'être utilisé en plus sur équipe spéciale. Hein. Je pense que c'est le returner le plus utilisé, enfin le joueur le plus utilisé en qualité de returner sur les joueurs qu'on a cités dans cette émission. Donc voilà, les qualités athlétiques, elles sont indéniables encore une fois. Maintenant, c'est vrai que on a vu beaucoup de joueurs, par exemple, transférer, changer de programme l'année dernière, justement pour passer un cran au-dessus et montrer qu'ils étaient capables d'assurer cette transition. Malheureusement, avec Brandon Joseph, dans un programme qui défensivement avait beaucoup beaucoup d'atouts à disposition, notamment en défense, bah on n'a pas ressenti ce petit déclic. Donc voilà, je parlais tout à l'heure de Greg Newsome. Est-ce que là, comme ce que je disais, pardon, sur J.R. Brown, est-ce que le fait d'avoir un joueur de top calibre autour de lui, ça lui a permis aussi de briller et peut-être de gommer certaines lacunes? C'est un peu compliqué à dire. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a des outils assez intéressants à disposition avec Brandon Joseph. Mais c'est vrai qu'il va vraiment falloir peut-être être très patient et bon, je vais radoter un peu, mais oui, là encore, je pense que la patience du staff va être peut-être une donnée à prendre en considération. Après, je pense que par exemple, en special teamer dans un premier temps, ça peut être un joueur qui peut faire beaucoup de grabuge. Je parlais de sa qualité de returner sur sa qualité, par exemple, de plaquage sur les défensivement, on va dire, en équipe spéciale. Ça peut être un joueur extrêmement précieux de par sa vitesse. Et de par sa capacité, malgré tout, à pouvoir plaquer, même si c'est clairement pas le meilleur plaqueur des joueurs dont on parle aujourd'hui.
Je suis d'accord, effectivement. Mais vraiment un profil assez mystérieux, on va dire. Alors qu'il a performé, il n'a pas performé.
C'est ça. Et
Voilà.
là aussi, c'est encore une fois, c'est ces éléments-là qui font qu'aujourd'hui, on se pose la question. Si on regarde et qu'on se dit, bah, c'est un joueur qui a plus ou moins cessé de régresser, qui n'a cessé de régresser depuis 2020, bah on peut se dire qu'aujourd'hui, il sera peut-être un quatrième tour au mieux. Maintenant, s'il y a une équipe qui tente le pari, ça peut être largement un troisième tour en fonction des possibilités des uns et des autres. Comment on dit? Un pic compensatoire.
Ouais, pic compensatoire,
Voilà, le
exactement,
tampon
oui.
pic
Ouais.
compensatoire sur Brandon
Fin
Joseph.
troisième tour ou fin de septième tour après, hein.
Voilà,
C'est,
c'est
il y a
ça.
juste là.
C'est du bonus.
Voilà.
C'est pour nous, on régale.
Exactement.
Bon, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur cette classe de safety. Je te remercie en tout cas, Nitina, d'avoir été en ma compagnie pour cette émission. On se retrouve dans quelques jours à peine, dans quelques heures, dans quelques minutes, quelques secondes peut-être, sait-on jamais, pour parler de la classe de linemen offensif intérieur. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis et continuez de rester bien connectés sur les antennes de Touchdown Actu pour suivre toute l'actualité, notamment liée à la draft et à ses différentes positions dans l'optique d'avril prochain. Salut à tous, ciao.
Salut!